Hello, ici Audrey de Choose Your Mentor. Bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 de votre podcast préféré. On passera un peu moins d'une heure ensemble en compagnie d'une personnalité inspirante comme d'habitude. En effet, nous recevons pour vous deux fois par mois des femmes et des hommes qui nous motivent et nous inspirent et nous vous partageons des conversations absolument bouleversantes sur leur expérience professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, notre invitée est Claudel Kamgan. Nous avons connu Claudel grâce à son podcast The Atalaku Effect. Je vous invite à l'écouter. Claudel a un parcours renversant et inspirant qu'il nous raconte en détail dans cet épisode. Il commence par un parcours d'ingénieur en développement informatique, puis du consulting, ensuite un MBA à Wharton, l'une des business schools les plus réputées des États-Unis. Suite à son MBA, Claudel fait un stage chez JP Morgan, puis rejoint le cabinet leader en conseil et en stratégie, McKinsey. Aujourd'hui, Claudel est product manager chez LinkedIn. Et je vous invite très fortement à découvrir son parcours. Sur ces belles paroles, je vous invite à partager cet épisode, à télécharger les applications d'écoute de podcast sur les téléphones de vos proches et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça nous aide énormément.
Bonjour Claudel.
Salut Malik.
Je suis très heureux de t'avoir sur Choose Your Mentor aujourd'hui. Moi, je t'ai découvert, moi, avec ton podcast, Atalaku, qui est génial et j'invite tous nos auditeurs à aller écouter. Tu recevais il n'y a pas très longtemps Mélissa Itoké, qui est une ancienne de l'ABC et moi, je suis à l'ABC actuellement aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle je suis tombé sur cette interview-là, qui était géniale pour moi, hein, de pouvoir redécouvrir Mélissa et tous les autres profils de ton podcast. J'ai donc entrepris de te contacter pour te proposer de t'interviewer et de revenir sur ton parcours à toi, professionnel, pourquoi tu lances un podcast et tout y quanti. Du coup, je vais pas spoiler les auditeurs plus, je vais te laisser te présenter et on va dérouler l'interview.
Super, merci Malik. Et oui, pour revenir sur Mélissa avant de te présenter, c'est vrai que c'est... On s'est connus effectivement à l'époque pareil quand elle était à l'ABC, quand j'ai quitté la France un tout petit peu perdu de vue, et quand je suis retourné en France récemment pour le mariage de ma vie, je me suis dit, bah, tiens, écoute, ça fait longtemps que j'ai pas vu Mélissa, du coup, je suis demandé de la voir parce qu'elle fait partir des parcours que je pense représentent ce qui se fait de mieux venant d'Afrique. Donc, c'est important pour moi de la voir sur le podcast. Enfin, pour quoi, Mélissa, si elle nous écoute.
Génial.
Alors, Claudel, qui suis-je? Je suis Camerounais de naissance. J'ai fait mon lycée à Yaoundé, au Cameroun. J'ai quitté le Cameroun à 15 ans, juste après mon bac. Et je me suis retrouvé en France, à Grenoble, où j'ai commencé mes études en informatique. J'ai fait 2 ans à Grenoble, je me suis retrouvé à Paris juste après. J'ai fait les 8 prochaines années à Paris. Et puis en 2015, j'ai quitté la France pour les États-Unis pour effectuer un double diplôme, MBA et Master en International Studies. Okay. Et je suis installé aux États-Unis depuis à peu près 2015, quand j'ai fait différents états entre la Pennsylvanie, New York, New Jersey. Je suis présentement au cœur de la Silicon Valley en Californie.
Énorme.
Et entre autres, effectivement, depuis quelques petits, j'ai mon podcast The Atalaku Effect.
Ouais, c'est ça. Génial. En découvrant via Atalaku Effect, donc ton podcast, j'ai un peu regardé ton profil LinkedIn et fait quelques recherches. Et ton parcours, c'est un parcours d'excellence, disons-le, hein, soyons pas modestes. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de rentrer plus en détail, d'un peu comprendre les ressorts de tes différents choix, pourquoi les États-Unis, pourquoi les différents changements de carrière de l'IT à la banque. Mais avant de rentrer dans ces détails-là, est-ce que tu veux un peu revenir sur ton enfance, toi que tu as grandi au Cameroun, et qu'est-ce que tu retiens de ton enfance et qui fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui?
C'est une très bonne question, merci Malik. Un petit disclaimer pour ceux qui nous écoutent, il y a cette légende urbaine qui dit qu'en général, ceux qui ont l'habitude de faire des interviews sont très mauvais quand ils en donnent. Donc moi, en tant que hôte, j'ai l'habitude d'être de l'autre côté à poser les questions. Donc, je vais faire de mon mieux pour structurer ma pensée de sorte que ce soit un peu organisé pour nos auditeurs.
Très
Donc, parler de mon enfance, je peux en parler de deux points sur deux aspects particuliers. Je peux parler de l'aspect scolaire et de l'aspect familial. Alors, les points de vue scolaire, j'ai bougé un petit peu, toujours à Yaoundé, hein, au Cameroun, dans différents quartiers. Quand j'ai commencé mon école maternelle et primaire à l'école privée laïque Les Bambis. Genre, tous ceux qui ont grandi à Bimassi-Lycée reconnaîtront l'école Les Bambis en Koukouaou. J'ai fait mon collège, c'est-à-dire du 6e à la 3e au collège de la retraite et le lycée, donc de la seconde à la terminale au collège Vogt. Et le collège Vogt, et en tout cas à l'époque, était un des meilleurs lycées au Cameroun. Donc, super content de mon parcours scolaire. Mes plus belles amitiés aujourd'hui remontent à l'enfance, aux amis que je me suis fait entre le collège de la retraite et le collège Vogt. Du point de vue note, je ne dirais pas que j'ai toujours été super brillant, ou brillant même, ce qui peut sembler bizarre si j'ai eu mon bac à 15 ans, mais j'étais dans le top tiers de la classe, mais je ne me considérais pas particulièrement comme super intelligent. Je ne faisais pas forcément trop d'efforts à la maison pour avoir de bonnes notes, mais ce n'était pas mon objectif non plus. Je n'ai jamais vraiment eu l'ambition d'être premier de la classe, malgré au désarroi de mes parents. Mais bon, ils n'ont jamais été vraiment déçus sur l'aspect scolaire, ils n'ont pas eu de soucis à se faire de mon côté. Donc, l'aspect scolaire, point de vue en France, c'était super. L'aspect familial également, j'ai été assez chanceux d'avoir de très bons parents. Enfin, honnêtement, j'ai pas grand-chose à leur reprocher. Je pense que j'ai reçu une éducation assez formidable qui fait une grosse partie de l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai pas eu de traumatisme particulier. Certains ont la malchance de grandir avec des parents qui les battent, qui sont alcooliques, qui n'accordent pas forcément de l'importance à l'éducation. Et par éducation, je parle d'éducation scolaire ou même à la maison. Juste, comment est-ce que tu bâtis un homme ou une femme? Donc, moi, mes parents étaient assez super. Les deux grosses valeurs qui m'ont fourni, que je sais qui font partie de moi aujourd'hui, c'est un, l'importance de refaire à l'éducation, que j'ai dit scolaire ou pas, et de deux, l'humilité. Et ces deux aspects m'ont beaucoup plus servi que desservi dans la vie. Donc, je pourrais revenir plus tard sur les quelques exemples où ça m'a desservi, mais dans l'ensemble, très bonne enfance de l'aspect familial. Le seul point que je peux marquer qui m'a... chaque fois que je pense à mon enfance, ça me passe par la tête, c'est en 2013, quand mes deux sœurs aînées sont déjà à l'université, donc elles étaient à la Cato, elles vivaient à la Cato, et mon frère qui s'envole pour la France. Donc, je me retrouve un peu tout seul, comme enfant unique, entre guillemets, avec les parents. Là, je pense que la solitude m'a un petit peu pris parce que fallait que je m'adapte à moi tout seul avec les parents et en plus, cette situation de fils unique auquel je ne m'étais pas forcément préparé. Ouais. Mais voilà, donc, en tant qu'enfance, c'est le seul point qui me revient et il n'est pas forcément si négatif que ça. Donc, franchement, j'ai été, assez chanceux de la famille, des amis et de l'éducation que j'ai reçue dans mon enfance.
Super. Merci beaucoup, Claudel. Et du coup, je ne sais plus l'année, mais tu viens en France, à Grenoble, tu choisis de faire de l'informatique à la base. Donc, pourquoi l'informatique? Est-ce que c'était un choix construit ou est-ce que tu as suivi un peu un filon quand tu as attendu?
Non, l'informatique, c'est principalement pour deux raisons. La première, j'ai un oncle aujourd'hui que je considère comme un génie, Serge Bougan, qui, à chaque fois que j'allais en vacances chez mes grands-parents à Douala, était un féru d'informatique. Donc, il m'a introduit un peu à la programmation, aux jeux vidéo aussi, hein, bien sûr, on ne peut pas se mentir. Et, comme la plupart des geeks, comme je nous appelle, qui veulent faire l'informatique, une bonne partie de ça vient des jeux vidéo. Ouais. Je me dis, mais attends, ce jeu, il est génial, je veux faire. Au plus tard, comment est-ce que je fais? C'est l'informatique. Je ne sais pas si c'est ton cas également, ou bien ceux que tu connais, mais je sais que pour beaucoup de ceux qui sont en informatique, je sais, le jeu vidéo, c'est un peu le départ. Et le deuxième point, c'est en première ou en terminale, je ne sais plus, on a nos premiers cours d'informatique. Donc, à ce que j'ai appris en mode un peu ad hoc via mon oncle, je l'ai de manière formelle via un cours à l'école qui me fait complètement tomber amoureux de l'informatique. Donc, je me dis, mes études secondaires seront consacrées à l'informatique. Alors, comment je me retrouve à Grenoble, Université Joseph Fourier? Je vais parler un peu des échecs, parce que tout n'a pas été rose.
Bien sûr.
Sortant du collège Vogt, la majorité du top tiers ont postulé pour les classes préparatoires, ce que j'ai fait également. Et à mon grand désarroi, aucune prépa ne m'a accepté. Alors, quand on parle de l'échec, après, je crois à l'époque, j'avais 15 ans. Donc, si on peut appeler ça échec. Mais c'est assez difficile pour moi parce que bah, mes potes les plus proches ont tous eu des... ils avaient tous fait à l'époque des admissions en prépa.
En école. Ah,
ok. Du coup, je me retrouve un peu... tu vois, tu te dis, mais tes potes avec qui tu joues au foot, tu joues à la console, ils sont admis, et pas toi. Tu te poses un peu quelques questions, tu te dis, mais attends, mais je pensais que j'étais intelligent. Qu'est-ce qui se passe?
Merde.
Donc, du coup, le next best thing, je me rabats sur l'université. Donc, je regarde plusieurs écoles. Et à l'époque, la question, c'est parce que je pars en tant que mineur donc, du Cameroun. Et bien, arrivant en France, il faut que je sois dans une ville où j'ai
un major.
Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je crois que c'est un tuteur.
Ouais.
C'est ça.
Oui.
Qui puisse, quelque part, t'encadrer et se porter garant de ta vie quasiment quand tu es en France. Et donc, on connaissait des amis à nous qui. Des amis à des amis aux parents qui vivaient dans le, à Grenoble. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve à postuler, à être admis à l'université Joseph Fourier, où je commence mes 2 ans. À l'époque, c'était pas encore le système LMD. C'était DOEG, maîtrise, master. Donc, je fais mon DOEG. Et après, je transfère sur Paris parce que mon grand frère était sur Paris à l'époque. Et pour les parents, c'était juste plus pratique que les garçons vivent ensemble. Mmh. Donc. Et puis, je devenais un petit peu têtu aussi. Donc, je pense que c'était pour les parents d'avoir mon frère avoir un peu la main mise sur moi et mère mise sur le droit chemin. Donc, je me retrouve au Paris en 2007, où je finis ma scolarité universitaire à l'Université Paris de Jura d'informatique.
Super. Et je veux vraiment qu'on fasse un bon point sur à partir de JP Morgan, McKinsey et ton MBA. Donc, je vais sauter un peu la partie française. On va aller directement sur CGI. Donc, tu rentres à CGI. Disclaimer, je suis ou j'étais à CGI. donc, CGI, c'est une entreprise de services numériques canadienne. J'étais sur la partie AMOA. J'y suis plus depuis pas longtemps. Donc, ça se passe comment CGI? Ça se passe bien? C'est quoi l'ambiance pour toi? Et du coup, est-ce que tu peux enchaîner en même temps sur, parce que c'est à ces moments-là, que tu fais le choix d'aller faire un MBA à Wharton, aux États-Unis. Donc, comment ce choix-là te vient et comment se passe le process d'admission derrière?
Ça marche. J'aimerais bien entendre, peut-être pas dans la discussion, mais après, ton parcours à CGI. Parce que quand j'ai rejoint CGI en 2011, ça s'appelait encore Logica à l'époque.
Ouais.
Et je crois que ce n'est que 2 ou 3 ans plus tard qu'on a été racheté par CGI. Donc, du point de vue culture, c'était très orienté Logica. J'imagine qu'avec le rachat américain, avec le temps, la culture s'est un peu plus diluée pour se rapprocher des us et coutumes américaines. Mais bon, je vais attendre ton parcours. Donc, CGI, ça se passe plutôt bien. J'entre en tant que développeur. C'est pas exactement l'idée que je me faisais en tête, parce que CGI ne développe pas de GDD, en tout cas pas aujourd'hui. Mais bon, je me dis, ça me rapproche du développement. C'est, à l'époque, c'était en termes d'informatique et de conseil informatique, c'était l'une des boîtes assez. Les plus intéressantes en France et surtout en tant qu'immigrant, c'était une des boîtes qui sponsorisait les étudiants étrangers. C'est-à-dire qu'ils se sont occupés de
changer mon statut, on appelait.
De changer mon titre de séjour d'étudiant à salarié.
Ouais.
Donc, CGI cochait pas mal de critères. Ça se passe plutôt bien, plutôt très bien même. J'étais quasi promu chaque année. Donc, j'entre en tant que, je sais plus le titre, mais l'équivalent de junior développeur. Puis je passe senior, puis je passe, je crois que c'est en 2013, où je me dis j'ai envie de faire autre chose que du développement. Parce qu'en France, surtout à l'époque, le développement, c'était vu un peu comme back-office. Tu vois pas grand-chose, ton job n'est pas forcément reconnu. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je passe du back-office au petit peu au front-office? Donc, je deviens concepteur à MOA. Je démissionne CGI dans l'été assez brutalement, sans job, sans boulot. J'ai passé quelques semaines aux États-Unis où je cherche du boulot parce que je me dis l'aventure américaine, c'est comme ça me passait par la tête.
Ouais.
Je trouve pas grand chose. Donc, je reviens aux États-Unis et à l'époque, j'avais ce qui reste aujourd'hui l'un de mes meilleurs boss, Xavier Jelin, s'il nous écoute, qui me ramène dans la boîte et en ce moment-là, en tant qu'AMOA. Donc, je m'assois un peu sur ce que j'ai appris en tant que développeur pour concevoir des flux dans le SOA, Software Service Oriented Architecture. Donc, entre 2011 et 2015, de très très bonnes années, très bons collègues, un apprentissage assez soutenu d'année en année. J'ai l'impression vraiment que c'était jusqu'en 2015, la meilleure partie des apprentissages que j'ai pu avoir à l'école ou en dehors. Donc, comment les États-Unis viennent? L'été en 2013, quand je m'en vais, que je reviens, tu as un peu le goût des États-Unis qui se met en moi, qui était déjà un peu, parce que je pense que quand tu es dans l'informatique et que tu es ambitieux, les États-Unis passent par ta tête à un moment donné. Parce qu'à l'époque, c'était Steve Jobs, Bill Gates, c'est des Américains. Ouais, malheureusement, les archétypes, c'était un peu ces mecs-là. Bon, je me dis, attends, passer par la Silicon Valley, c'est peut-être pas une mauvaise idée. À l'époque également, ma petite amie, qui est devenue ma femme aujourd'hui, était aux États-Unis. Donc voilà, notre gros motivateur.
Ouais, okay. Parce qu'elle... ouais.
Et finalement, le constat assez brutal que je m'y connais, que je ne connais pas du tout en finance, se présente devant moi. C'est-à-dire, quand tu passes à MO1, j'avais quelques notions de gestion de budget, mais tout mon parcours universitaire était centré sur l'informatique. Alors, j'ai même posé les questions, est-ce qu'il faut que je fasse un master spécialisé? Je sais que Central en propose un, par exemple. Donc, tu as toutes ces questions-là qui me passent en tête. Et donc, j'atterris sur le MBA comme choix, parce que, un, c'est pas entièrement focalisé sur la finance.
Ouais.
Deux, ça a de très gros avantages en termes de communication, networking, operation, marketing. Sur tous les fondamentaux pour mener et comprendre bien une entreprise. Et enfin, le double diplôme, spécifiquement à Wharton, MBA, MA. On pourra rentrer dans les détails, je vais te laisser poser les questions si tu veux en savoir un petit peu plus. Mais tous ces événements-là me poussent à commencer à me préparer, à postuler, ce qui a pris pas mal de temps, postuler pour un MBA pour m'orienter vers ces...
Génial. Et t'as pas, enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur avec le MBA en termes de financement, la rentabilité derrière. Est-ce que tu te disais si tu vas aller aux États-Unis, tu restais là-bas, donc il y a beaucoup plus de possibilités de rentrer dans ces finances. Comment est-ce que tu appréhendes cette partie-là qui fait quand même peur à pas mal de gens?
C'est une bonne question. Généralement, je dis aux gens que, surtout à cet âge-là, j'avais déjà 22, 23 ans, je pense que les questions que tu te poses ne peuvent plus être aussi simples que les questions à 15 ans. Je dis, si tu veux faire un MBA, pour moi, c'est une question assez simple. Quel est le positif? Quel est le négatif? C'est un investissement à long terme que je fais sur moi, sur ma carrière. Et quel en est le rendement? Alors, la première chose, c'est l'investissement. Combien ça coûte? Mon double diplôme, c'était à peu près 250 000 dollars. Alors, lui, à 23 ans, c'est pareil, un gros chiffre. Mais je me dis, qu'est-ce que j'y gagne, tu vois? Si je réussis à avoir le meilleur MBA, qu'est-ce que ma carrière devient derrière? Et c'est assez simple parce que la plupart des meilleurs MBA, enfin, des MBA tout court, hein, quel que soit leur ranking, en général, ils affichent un peu, sortant du MBA, quel est le pourcentage des étudiants qui trouvent un boulot? Quelle est la répartition de ceux qui trouvent un boulot dans les plus grosses industries post-MBA, c'est-à-dire la finance? La finance being investment banking, private equity, investment management, le conseil, et ça c'est le conseil stratégique, McKinsey, BNP, CG, ou tech. Okay. Et quand on regarde, quasi 80% des étudiants trouvent un boulot dans ces industries-là. Et je me dis, je rentre au MBA, j'espère faire partie des 80% meilleurs, donc ça va aller. Après, financièrement parlant, quel est le salaire à la sortie du MBA? Encore une fois, si je vise un MBA comme celui de Wharton, je pars du principe que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur MBA aux États-Unis. Donc, j'imagine que les salaires devraient être assez élevés. Bon, pareil, hein, tu as Google, tu as sur le site de ces différents MBA, tu vois à peu près la tranche de salaire. En fait, tu vois rapidement que ça reste un problème assez facile. Après, la question après, c'est alors comment j'obtiens le financement? Parce que je n'avais pas encore fait de prêt en France, parce que je n'ai pas de biens immobiliers. Et aux États-Unis, c'est alors mon prêt, je le fais ou à gauche ou à droite, et puis l'école te rassure. Le plus dur, c'est d'avoir l'offre d'être accepté dans l'université. Le reste, comment obtenir un prêt, ça se fait super facilement, il faut être sur place. Donc non, pas vraiment de doute, pas beaucoup de questions que je me pose. Le seul point à l'époque, c'était l'anglais. Parce que c'est CGI, même si on fait du conseil, même si on... que ce soit en MO1 ou en tant que développeur, l'anglais, c'est pas forcément notre première langue.
Donc, tu n'étais pas bilingue.
Donc, j'ai dû prendre...
Tu n'étais pas bilingue encore à l'époque. Hein.
Non, franchement, zéro. Alors, j'ai passé pas mal de temps, et là, c'est, si je peux vous donner un petit coup de chapeau à moi-même, c'est que j'ai été assez discipliné pour apprendre l'anglais de moi-même. Et ça, c'est assez con, hein. C'était deux choses. Un, c'était Saint-Michel. Quand je sortais beaucoup plus, c'est un peu le quartier anglais de Paname, donc j'ai passé pas mal de temps à discuter avec des Anglais, des Américains, des gens un peu partout. Et puis, numéro deux, à l'époque, c'était l'essor des séries. C'était pas forcément Netflix, mais t'avais pas mal de séries en anglais, Dexter à l'époque, comme ça. Donc, j'étais assez discipliné, je les voyais en anglais sous-titré en français. Puis, j'ai basculé de l'anglais sous-titré en anglais. Et puis, avec le temps, je me suis fait violence, j'enlevais les sous-titres. Donc, ça m'a un petit peu forcé à consommer l'anglais via l'entertainment, parce que je m'amusais en même temps que j'apprenais. Et quand je sortais à Saint-Michel, ça me permettait de pratiquer l'aspect verbal.
Speaking,
assez content qu'avant de postuler, j'étais assez fluent déjà à ce stade-là.
Ok, super. Et du coup, comment le financement, tu l'as aux États-Unis? C'est aux États-Unis que tu fais ton prêt, hein, c'est pas en France.
Okay. Non, c'est aux États-Unis.
Ok, et ça, il ne pose pas de problème particulier Non.
Non, c'est pas fait. C'est une machine assez bien huilée, parce que si tu penses au prêt en général, quand tu vas à la banque, la question que la banque se pose, c'est est-ce que ce mec-là à qui je prête des sous, est-ce qu'il sera en position demain de le rembourser? Je pense qu'il y a un terme pour ça en français, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais faire défaut, je pense. Est-ce qu'il va faire défaut ou pas? Les Américains vont se dire, écoute, ce mec-là, il est admis par le
meilleur.
Donc, il y a très peu de chances. Et puis, les Américains, tu as le social security number, ils peuvent te traquer assez facilement. Donc, tu ne peux pas vraiment échapper. À moins que tu ailles t'enfermer dans un village profond au Cameroun.
Top, ok. Et donc, tu fais les 2 ans à Wharton, c'est ça, hein? 2 ans full-time.
C'est ça.
Et les fees, donc les 250 000, ça prend en compte toute la formation et l'hébergement, la nourriture sur le campus et tout ça, hein? Ou pas du tout?
C'est un estimate. En général, ils vont te dire que si tu vis au plein cœur de Philadelphie, ce qu'ils recommandent aux étudiants, parce que sur le coup, imagine un peu comme un quartier qui est, j'ai envie de dire, à 80% habité par les étudiants. Bon, on vit un peu tout sous l'un de l'autre. Bon, ils estiment les coûts des loyers, les coûts de tuition, c'est tout ça, effectivement, qui fait 250 000. Alors, en fonction de tes largeurs, de tes largesses, en fonction de comment tu veux vivre, en fonction du nombre de voyages que tu veux faire à l'étranger pendant ton MBA, ça peut être beaucoup moins si tu vis un peu en serrant, ou alors beaucoup plus si tu veux explorer un peu plus le monde en dehors du MBA.
Ok, top. Et donc, tu fais... comment ça se passe? C'est quoi? C'est beaucoup plus des business cases, avec des rencontres avec des dirigeants à l'intérieur de Wharton même, c'est comment?
Deux très, 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 très belles années sur de nombreux points. Le premier, le networking. Alors, tu as des mecs et des nanas qui viennent de partout. Et quand je dis partout, en termes de graphisme, en termes de religion, en termes d'orientation sexuelle. À Paris, par exemple, je connaissais pas forcément le monde LGBTQ, alors ce qu'ils vivaient, les difficultés qu'ils traversaient, donc peut-être ça. L'aspect networking, c'est génial. L'aspect scolaire, lui, c'est un mélange de cours classiques, c'est-à-dire que tu as un temps d'amphi, tu as le prof qui présente un cas, mais c'est beaucoup plus interactif. Tu vois. Là où j'ai l'impression qu'en France, en tout cas à l'Université Joseph Fouilly, parce que c'est ce que je connais en termes d'éducation en
c'est
France,
très
je
ne vais pas
pour le reste. Mais...
C'est très top-down en France, c'est ça, hein. C'est ce que tu veux relever.
C'est ça, c'est un peu ça, c'est limite un peu dogmatique, où je suis le professeur, je te dis, t'écoutes, et puis quelque part tu la fermes un peu. Les Américains, en tout cas pour nous, le MBA, c'était beaucoup plus interactif. C'est-à-dire que le professeur, il vient avec cette dualité d'une extrême confiance parce qu'il a fait des études, il s'est renseigné. En même temps, en termes d'humilité, parce qu'il pose des questions. Tu vois. Il a conscience qu'il a dans la salle des mecs et des meufs qui sont assez brillants, qui viennent de cultures différentes. Donc, il est assez ouvert à être pro. Prove me wrong. Il est assez ouvert à être démontré.
Ouais, à être challengé.
C'est ça.
À être challengé, ouais.
Okay. Donc, une bonne partie de ça, effectivement, c'est des business cases. On va dire, par exemple, prenons le cas Uber. Uber qui, en quelques années, est passé de start-up à une domination quasi globale sur le monde du ride sharing. Comment est-ce que Uber s'est établi? Alors, dans quel pays est-ce qu'elle est rentrée? Quelle était la stratégie d'Uber pour rentrer dans tel ou tel pays en premier ou en deuxième? Et en général, le professeur vous pose des questions. Alors, si tu connais l'histoire d'Uber avant, t'apprends pas forcément grand-chose. Mais si t'es comme moi, donc t'étais pas forcément curieux du monde du moins sharing, bah, t'apprends vachement. Et ça, c'est le cas sur quasi tous les cours pendant 2 ans. Tu vois, on va parler de Uber, de Google, de Starbucks, des choix stratégiques de telle ou telle compagnie, de FTSE 100, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Dans l'aspect académique, il est assez poussé. L'aspect ouverture d'esprit, ça, c'était plus à travers l'autre master, via de l'Ardor Institute, où on a fait, je crois, 15 pays différents dans le monde. Et à chaque fois, l'école organise des visites assez particulières. L'une, par exemple, qui m'avait le plus marqué, c'est quand on était au Brésil, on a discuté pendant 2 heures avec le CEO qui organisait les Jeux Olympiques 2016. Et on y était pendant l'été 2015. Donc, ça, c'est super de parler en face à face avec le mec, de parler un peu des contraintes, de l'organisation des Jeux Olympiques, de comment est-ce qu'ils projetaient les revenus. Donc, ce type de discussion, on l'a eu quasi dans tous les pays dans lesquels on est passé. Tu vois. Des étudiants, par exemple, se retrouvent au Rwanda à discuter avec Kagame et ses ministres sur comment est-ce qu'il a réorganisé le Rwanda après le génocide. Ceux qui sont allés en Allemagne, je crois, dans des discussions avec, je ne sais pas si c'était Angela Merkel, mais quelques-uns de ces ministres également. Donc, beaucoup d'expositions, que ce soit au business, pour ceux qui veulent faire un business plan MBA, ou alors au politique, pour ceux qui veulent s'orienter politique après le MBA. Donc, ouais, de ce point de vue, également, pas mal de... Enfin, je ne sais pas si je fais un bon job pour être assez structuré de ma manière.
Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est parfait. Après ces 2 ans, tu pars en private equity, en investment bank chez JP Morgan Chase. Je suppose que les entretiens, c'est chaud. Donc, à ce moment-là, tu deviens totalement bilingue, on est d'accord?
Ah oui. De toute façon, à ce stade-là, l'acceptation déjà au MBA me prouve que peut-être que je me fais un peu plus de soucis parce que je pars du principe que pour être admis en MBA, c'est t'envoies un dossier, t'acceptes sur le dossier, mais t'as 2-3 interviews à passer. Donc à ce stade-là, ils t'ont testé, tu vas passer le GMAT, tu vas passer le TOEFL. Donc j'avais confiance que mon niveau d'anglais était suffisant, en tout cas. Donc oui, quand je rejoins JP Morgan, à ce stade-là, j'ai plus vraiment, je suis pleinement confiant de mon niveau en anglais. Alors le MBA, le JP Morgan, ça se fait pendant le MBA. Parce que le MBA, vu que c'est sur 2 ans, le gros avantage du MBA sur 2 ans, c'est que la première année, tu peux, pendant le stage, essayer une industrie différente. Okay. Donc, pour le coup, vu que je ne connaissais pas du tout en finance et que j'ai toujours eu cette... à l'époque, en tout cas, Wall Street, c'était un peu... c'était un nuage sombre pour moi. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas, tu vois, tu as un peu cet aspect... j'ai envie de dire gamin en moi qui était ouais, « j'ai envie de voir ce que c'est que Wall Street, le loup de Wall Street, ça passait par la tête ». Donc, le stage à JP Morgan, c'était effectivement pour comprendre comment est-ce qu'on value des compagnies.
Okay.
Je ne sais pas forcément comment ça fonctionne. Le recruiting, tu as posé la question. Le plus difficile que j'ai eu à passer jusqu'à présent, parce que le recruiting commence en octobre, il se termine en janvier. Donc, c'est 3 mois super intenses où tu dois convaincre les banquiers de... Alors, numéro 1, pourquoi investment banking? Numéro 2, pourquoi JP Morgan? Numéro 3, qui es-tu, toi, qui parle à peine anglais, qui débarque? Pourquoi est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas apporter à la boîte? Et c'est un monde assez... et ils aiment le garder un peu mystifié, dans le sens où les codes pour y rentrer ne sont pas forcément clairs. Parce qu'une fois que tu as les codes, tu peux essayer de les déchiffrer. Mais quand tu n'as pas les codes, tu navigues un peu dans des eaux sombres. Donc, ouais, très difficile le recruiting, mais ça s'est plutôt bien passé. J'ai été content de ce que j'y ai appris, même si à la fin du stage, c'était clair pour moi que...
tu ne voulais pas faire.
Enfin, le nage était levé, c'était démystifié, mais ce n'était pas pour moi.
Ok, top. Et donc là, tu t'attaques au Big McKinsey, tu vois, dans le top one consulting firm, donc McKinsey. C'est assez mythique, les entretiens. Donc, les process de recrutement à McKinsey sont assez mythiques, surtout à cause de l'étude de cas. On en a déjà parlé sur le podcast avec un pote qui est chez Roland Berger, donc qui a un cabinet pareil de stratégie, mais européen. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà du process de recrutement chez McKinsey et après de l'ambiance à l'intérieur, comment est-ce que ça se passe, les missions et tout ça.
Le C'est une bonne question. Le recruiting, alors encore une fois, j'ai la chance, venant de ces NBA-là, en général, Matisse, quand ils recrutent, aux États-Unis en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, en undergrad, ils vont chez les Ivy League Schools, c'est-à-dire quand ils sortent d'école, ils vont taper chez Wharton, Harvard, Stanford, Yale, toutes ces écoles undergrad. Et en business school, c'est à peu près pareil, ils vont taper chez Wharton, Harvard, Stanford, Columbia, MIT, dans quelques écoles. Donc, en général, déjà, une fois que tu rejoins un de ces top MBA-là, ta cote augmente forcément. D'accord, donc, rentrer chez McKinsey, ça paraît beaucoup moins effrayant ou c'est beaucoup plus accessible qu'avant, par exemple. Okay. C'est-à-dire qu'en 2011, quand je sors de l'université, McKinsey ne passe pas forcément par la tête, mais à partir du moment où j'entre à Wharton, je sais que
c'est possible.
C'est reachable, c'est-à-dire que c'est accessible. Le recruiting, c'est assez long. C'est beaucoup moins compliqué que l'investment banking. Ça a pris à peu près un mois. C'est pas mal d'entretien, mais c'est assez carré, en fait. C'est très structuré. Qui es-tu? Pourquoi consulting? Une petite anecdote, c'est que je crois McKinsey, c'est l'une des seules boîtes qui te demande pas pourquoi McKinsey, parce qu'ils estiment que... enfin, c'est bon, tu veux McKinsey. Tu vois, ils aiment bien ça.
C'est clair.
La péter un peu avec ça. Donc, ils demandent pourquoi le conseil. Et ils veulent voir... dans ton parcours, sur comment tu te présentes. Un, à quel point est-ce que tu es clair, carré et structuré dans ta présentation. Deux, est-ce que tu sais résoudre un problème. Et ça, c'est tout le point de l'étude de cas.
Totalement.
Et trois, comment est-ce que tu navigues les incertitudes? C'est-à-dire que pendant ton étude de cas, parfois, tu peux emprunter un chemin qui ne va pas te mener vers la solution. Ils te diront pendant l'interview que « est-ce que tu es sûr de ce que tu fais ?» Alors, certains vont se... juste perdre le fil et dire « Oh putain, je ne suis pas en train de faire le... Je suis pas sur le bon chemin, qu'est-ce que je fais ?» Tu vois, le stress monte, sinon, est-ce que tu sais gérer ton stress? Est-ce que quand on te donne des directions, tu peux rapidement changer de cours sans que ça ne te...
panique.
Tu casses ton mode de pensée, ta structure. Donc, c'est un peu ça l'étude de cas, t'as les bouquins pour se préparer, ouais.
Constantino.
T'as la méditation, enfin, t'as pas mal de... je pense que quand t'as dit, ton pote t'en a parlé, je pense que t'en sais déjà et tes utiles en savent déjà suffisamment. Et après, une fois à l'intérieur, je reste un peu comme tout, c'est focus et discipline. Focus dans le sens où t'es là pour une mission, t'as un projet à délivrer, t'as une question de ton client à laquelle tu dois répondre. Et c'est tout ce qui compte. Le reste autour, c'est... tu vois, McKinsey, c'est vraiment l'art de poser les bonnes questions pour arriver aux bonnes réponses. Et c'est le cas, je pense, que ce soit dans le conseil ou personnellement, je crois, dans la vie également. Le plus dur, c'est pas forcément de trouver les réponses. En général, il y a très peu de problèmes qui sont vraiment hyper compliqués. En général, c'est à partir du moment où tu te poses la bonne question, tu sais comment attaquer le problème via le bon angle. Et McKinsey, c'est un peu la machine, c'est... dans le training qu'ils donnent aux consultants, ils entraînent un peu les consultants à structurer leurs pensées, à poser les bonnes questions, à communiquer clairement, parce qu'en général, tes clients, c'est des CFO, des CEO. Donc, quand tu parles à des exécutifs, le langage que tu utilises, les données que tu présentes ne sont pas les mêmes qu'à ton manager mid-level management. Donc, très, très bon training. Je sais pas trop quoi dire. Et puis également, un truc que je pense que McKinsey fait extrêmement bien, c'est l'échelle carrière. En supposant que tu veux faire du management consulting toute ta vie, quand tu entres, après le MBA, que tu rentres en tant qu'associé, si tu veux être partenaire, tu sais que tu passes d'associé à engagement manager, à
principal.
Et puis c'est something associate partner et après partner. Et à chaque niveau, tu as une grille, je crois que c'est au moins 5 pages de document, qui te dit qu'est-ce que tu dois faire pour passer d'associé à IM, de IM à EP, de EP à partner. C'est-à-dire que c'est pas, alors, bon, ça sent en fin d'année, faisons la revue de ton année, alors que t'as fait 6 ans. Non, c'est au début de l'année, t'as vraiment, et encore une fois, c'est quand je parle de, je sais pas à quel point je peux donner des détails, mais t'as une grille assez précise et claire. De ce que tu dois faire. Donc, d'une mission à une autre, tu peux aller voir ton manager ou bien ton staff et dire, écoute, la mission, j'ai appris comment présenter l'info, j'ai appris comment structurer mes données, j'ai appris comment faire un modèle pour le rachat d'une boîte. Par contre, je suis pas bon à ça. Donc, est-ce que ma prochaine mission, peut être dans telle ou telle industrie, il peut être dans telle. Donc, il te donne vraiment les outils pour être
au niveau de ta progression, de ton objectif.
Exactement. Et c'est toi qui dois le driver. Tu as les outils présents pour le driver, mais si tu prends pas, tu fais pas l'effort nécessaire pour parler à ton staffer, parler à ton partner, écoute, tu n'y arriveras pas. Ce que ma clé fait également de bien, c'est, si je peux résumer en trois choses, parce que je pense que l'une des questions qui vient également, c'est comment est-ce que McKinsey se maintient après tant d'années au numéro 1. Je pense que trois points. Numéro 1, le talent que tu embauches. C'est super difficile le recruiting, mais du coup, tu sais que les mecs que tu embauches, ils vont délivrer. Numéro 2, une fois à l'intérieur, comme j'ai dit, donne-leur les outils pour se développer personnellement, parce que leur développement personnel contribue de manière assez directe au développement de McKinsey. Et numéro 3, si les mecs veulent se barrer ou bien quand ils se barrent, garde contact avec eux parce que les clients de McKinsey demain, pour la plupart, c'est les anciens McKinsey.
C'est clair.
Donc, une fois que tu maîtrises ces trois-là, je pense que c'est compliqué d'être détrôné.
Totalement. Et tu décides quand même de partir de McKinsey et tu pars d'abord chez Consensus. Enfin, tu décides même de rentrer dans une nouvelle partie de ta carrière, de faire du product management et chez Consensus et ensuite chez LinkedIn. Bon, est-ce que tu peux revenir brièvement sur Consensus et ensuite on va rentrer dans le cœur du métier aujourd'hui chez LinkedIn.
Alors, brièvement, Consensus, c'est le monde de l'entrepreneuriat qui m'a toujours un peu passé par la tête. C'est le monde du blockchain qui est une nouvelle industrie et c'est découvrir l'Asie professionnellement. Parce que toute l'année 2018, je suis entre Singapour et l'Inde. Je crois que j'ai passé que quelques mois aux États-Unis en 2018. Blockchain, c'est définir les standards d'une nouvelle industrie. Parce que même aujourd'hui, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que blockchain. Donc, c'est dans l'éducation. Comment est-ce que tu simplifies la technologie de manière assez profonde, de telle sorte que tu puisses pitcher à la fois des développeurs et des CEO et qu'ils comprennent de manière instantanée ce que c'est que la technologie et ce qu'elle promet. Donc voilà les grosses raisons pour lesquelles je prends le pari un peu fou de quitter le conseil pour l'entrepreneuriat. Et puis d'un point de vue personnel, c'est également valider que j'ai ce qu'il faut pour être un entrepreneur. Parce que beaucoup se disent que ouais, je vais fonder ma boîte, mais ça demande des skills, des compétences assez particulières. Je dis, écoute, j'étais encore jeune, j'avais pas le temps. McKinsey en général, à moins que tu aies vraiment. Tu t'es mis la boîte à dos, il y a moyen d'y revenir, ce qu'on appelle des boomerangs. Des mecs qui partent, qui reviennent après. Donc, je me dis, dans le pire des cas, il y a peut-être l'occasion que j'y rentre après Consensus. Donc, j'aime beaucoup l'expérience produit. Mon aspect geek revient un peu parce que je reviens au monde du tech.
Pardon, du coup, mais c'était ta boîte.
La startup Consensus, il se casse les dents.
Ok, d'accord.
Je passe quelques temps à me dire, ok, est-ce qu'il faut que je parle à des investisseurs pour réinjecter des sous dans la startup. Mais bon, très rapidement, je pense que ça ne va pas se faire. Et je dois toujours des sous à l'oncle Sam parce que j'ai fait mes prêts pour mon MBA. Donc, je me dis, bon, comment est-ce que je me réoriente de produit? Mais cette fois, pas dans une startup, parce que la startup, c'est apprendre à créer un produit depuis zéro. Mais de l'autre côté, c'est comment est-ce que tu crées ou alors construis un produit à une grande échelle. Donc, je m'oriente vers la Silicon Valley, dans les passes des entretiens chez Google et LinkedIn. Et puis, ça marche bien avec LinkedIn. C'est là que je rejoins la boîte en août 2019.
Génial. Et en fait, là, on va parler maintenant du product management, de ce que tu fais chez LinkedIn. Et beaucoup d'entre nous utilisons les produits de ces boîtes-là sans se rendre compte que, en fait, c'est des départements qui sont autonomes et que chacun construit son produit. Limite, il y a des concurrences internes et que c'est à qui sort le meilleur produit. Mais, et est-ce que vous, en méthodologie produit, vous êtes sur quoi? Sur de l'agile, du design thinking? Toutes ces méthodologies-là sont utilisées ou vous avez une méthodologie particulière à LinkedIn?
C'est une bonne question. Chaque équipe a un peu son... Et c'est ça un peu, LinkedIn particulièrement, je ne sais pas comment ça se passe chez Google, Facebook, alors je reste de la vallée, mais LinkedIn, c'est un peu ad hoc. C'est-à-dire que dans mon équipe, par exemple, avec notre engineering team, ils se servent de... Kanban.
Kanban, ok, ouais.
Kanban, c'est ça. D'autres équipes utilisent Scrum, donc chacun s'associe un peu. Les équipes fonctionnent de manière assez assez divers et variés. Alors moi particulièrement, je suis dans l'équipe Trust. Alors l'équipe Trust est en charge de deux points particuliers. Numéro un, c'est tout ce qui est sécurité.
Okay.
Donc de faire en sorte que ton compte LinkedIn ne soit pas hacké. Et ça, que tu sois sur le LinkedIn que tout le monde connaît avec le feed, ou alors les différents produits LinkedIn, CS Navigator, Campaign Manager, LinkedIn Learning, autres. Et le deuxième point, ce qu'on fait dans l'équipe Trust, c'est faire en sorte que le contenu que vous voyez sur la plateforme soit de qualité. Si tu compares ce que tu vois sur Facebook, LinkedIn, Instagram, ce que tu vois chez LinkedIn, il est beaucoup plus clean. Alors, oui, parce que c'est un professionnel, donc en général, les gens sont un petit peu moins des barbares, dans le contenu qu'ils postent est un petit peu plus filtré. Et deux, parce que derrière, il y a un très, très gros boulot dans l'équipe Trust, en charge justement de, tu vois, un, identifier, et de deux, soit supprimer, soit réduire la portée des contenus que nous jugeons sont nocifs
okay.
en environnement LinkedIn. Alors moi, non, dans l'équipe Trust, ça c'est fait l'entièrement l'équipe Trust. Moi particulièrement, je suis en charge de tous les produits que les clients, ce qu'on appelle nos membres et clients LinkedIn, utilisent pour contacter LinkedIn pour avoir de l'aide. Donc que ce soit envoyer un email, que ce soit chat, que ce soit forums, on a une communauté LinkedIn, ou que ce soit phone. Donc je suis en charge de faire en sorte que l'expérience soit la plus agréable possible.
D'accord, top. Et aujourd'hui, sur le business model de LinkedIn, il est couvert en majeure partie par LinkedIn Premium, où vous avez beaucoup de, il y a des produits, enfin il y a d'autres produits qui permettent de rentrer de l'argent.
C'est une très bonne question parce que honnêtement, même moi, il y a 2 ans, je ne savais pas forcément quels étaient les principaux générateurs de revenus pour LinkedIn. Et je pense que de l'extérieur, on voit un peu LinkedIn.com, on se dit bah écoute, c'est Premium. En fait, t'as 4 lines of business qui génèrent des revenus sur LinkedIn. Alors, numéro 1, comme tu as dit, c'est Premium. Numéro 2, c'est LinkedIn Learning.
Okay.
Et une fois que tu as un compte Premium, tu as accès à LinkedIn Learning. C'est-à-dire que tu peux prendre des cours assez particuliers. Alors, LinkedIn Learning, c'est ouvert à la fois aux particuliers et aux entreprises, parce que là, oui, tu as des formations, que ce soit en ligne ou en personne, que nous offrons via LinkedIn Learning. La troisième ligne de business, c'est LinkedIn Marketing Solution. Et le produit, c'est Campaign Manager. Donc, si demain, tu veux la pub de Choose Your Mentor sur LinkedIn Learning, tu vas passer par Campaign Manager. Ça te permet d'afficher des publicités sur les différents produits LinkedIn.
D'accord.
Et enfin, le dernier produit, la dernière ligne de business, c'est LinkedIn Sales Navigator, qui est orienté vers pour les salesmen. Okay. Donc, comment tu génères des leads, comment tu suis les leads. C'est une espèce de dashboard qui te permet un peu en tant que salesmen d'être productif dans ton boulot.
D'accord, top. Bon bah carré. On va un peu rentrer dans ton développement personnel à toi. Claudel, est-ce que tu as un mentor ou est-ce que toi-même tu mentors des plus jeunes?
Est-ce que j'ai un mentor? Oui et non. J'en ai plusieurs qui sont dédiés à des problèmes assez particuliers. Chez LinkedIn, par exemple, j'en ai 2. En dehors de LinkedIn, je dois en avoir un que je sais peut servir un peu à chaque fois qu'il y a des questions de carrière, je peux l'appeler. Mais c'est, alors ça peut paraître assez arrogant de le dire comme ça, mais je sais également que certaines personnes refusent de me mentorer parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'auront pas grand chose à m'apporter. Ce que je trouve assez particulier parce que, et enfin, je peux comprendre d'où ils viennent, tu vois. Ils doivent se dire que, écoute, voilà un gamin qui a eu son bac à 15 ans, MBA, JP Morgan, McKinsey, ça peut être assez impressionnant. Si tu n'es pas passé par là, ou bien si tu as une vision assez mystifiée de ce que ça représente. Mais j'ai du mal à avoir des mentors profonds, parce qu'on me dit, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis directeur dans telle ou telle boîte, qu'est-ce que j'ai pu voir que tu n'as pas vu? Ce qui est assez troublant pour moi parce que je pars toujours du principe que tu aies une éducation ou pas, que tu aies bossé pour telle boîte ou pas, tu as quelque chose que tu peux m'apporter.
Bien sûr.
Ça peut être ta vision de la vie, ça peut être à quel point tu es discipliné, ça peut être, enfin tu vois, tu as tellement de points particuliers. Donc, ça m'a poussé un peu du coup à avoir des mentors plus ou moins sporadiques où je vais te voir et je te demande pas forcément d'être un mentor parce que le terme aux États-Unis est assez costaud. On dit, oula, c'est une grosse responsabilité. Donc, je break down et je pose un peu des petites questions. Genre, alors, en termes de carrière, de moment, après le product management, voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu penserais? Quelles questions tu te poserais? Ça, c'est pour l'aspect mentor. Ceux que je mentor, j'en ai deux, trois, dont un en France, d'ailleurs, qui est basé à Grenoble. Okay. Et je suis super, super content et toujours content d'en avoir d'autres. Mm. Parce que je pense que c'est pas forcément un droit, mais je pense que c'est un devoir de ma part de mentorer des un peu plus jeunes que moi ou des qui veulent rejoindre je sais pas quelle boîte ou des qui veulent faire un allié, parce que c'est ce serait égoïste de ma part, je pense, de garder ce que je sais bien de ce que j'ai pu vivre pour moi. Donc je m'efforce au quotidien à guider ces jeunes là autant que je peux.
Top. Et tu veux nous parler maintenant de Via Telaco Effect. Donc comment ça te vient, pourquoi tu lances ce podcast?
Via Telaco Effect, en fait, ça vient du principe que si tu es africain en dehors de l'Afrique, si tu fais pas gaffe, tu peux rapidement te retrouver déconnecté du continent. Mm. Alors, c'est déjà le cas en Europe, c'est pire aux États-Unis et c'est encore pire sur la côte ouest. Que géographiquement parlant, plus tu t'éloignes de l'Afrique,
c'est clair,
et plus tu peux avoir une image qui est assez formatée par les médias, c'est-à-dire qui est assez négative. Mm. Donc je me rends compte, surtout quand j'arrive en Californie, je me dis putain, c'est tu regardes CNN, Fox News ou MSNBC, tu n'entends quasi jamais parler d'Afrique. Donc je me dis, si je fais pas gaffe, je peux me retrouver assez déconnecté. Ou alors chaque fois penser Afrique, de me dire que non, mais il n'y a pas grand chose à faire. Donc, du coup, je me dis, alors, qu'est-ce que je peux faire? Le podcast, c'est deux choses. Un, c'est améliorer l'image de... Parler des parcours qui, je trouve, sont intéressants d'Africains, du terroir ou de la diaspora, qui font quelque chose que je trouve intéressant et dont le parcours peut apprendre à d'autres que, en Afrique, on a de nombreux talents. Donc, raconter leur histoire, raconter leurs faiblesses, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien. Et pour numéro deux, pour moi... tu vois, en toute transparence, hein, parce que t'as également un aspect égoïste là-dedans, c'est de garder le contact, tu vois, ça m'aide du point de vue networking, ça m'aide à rencontrer des gens assez formidables qui ont des idées assez, assez claires et précises sur ce qu'ils veulent d'eux-mêmes et ce qu'ils veulent faire en Afrique. Mm. De deux, ça me permet d'améliorer ma communication, c'est-à-dire que les questions que je pose, t'as pas d'accord sur le mentoring, mais chacun de mes interviews, j'ai l'impression que d'en apprendre autant que les interviewés apprennent eux-mêmes. Donc, à Talakou, c'est donc un peu c'est un mot congolais qui veut dire faire l'éloge, c'est le terme à Talakou. Mm. Mais Talakou, c'est donc faire l'éloge d'Africains et d'Africaines qui font ce que de mon point de vue, est louable pour les Africains en général.
Super. Bah, du coup, comme j'ai dit, hein, moi, j'ai écouté 4 épisodes, donc 2 en anglais, 2 en français. Donc, parce que oui, il y a des épisodes en anglais. Et donc, ceux qui veulent travailler l'anglais, c'est encore une possibilité. et ouais, moi, je kiffe. Voilà, c'est quelque chose que je conseille vachement et je l'ai conseillé directement. Hein, quand j'ai écouté, j'ai envoyé sur une page qu'on a avec les actuels de l'ABC, de l'African Business Club, Paris. Et donc voilà. On est presque à la fin, Claudel. Ça a été moi un super moment hein, de discuter tout ça. Moi, je suis intéressé pour faire un MBA. Et donc, je le dis toujours à chaque fois en rigolant, moi, toujours mon temps, pour la même raison que toi, rencontrer des gens, promouvoir des profils et du coup, donner des mentors virtuels aux gens. Ce qu'on s'est dit, toi et moi, on pourra le diffuser à des milliers de personnes et qui pourront savoir ton feedback sur ton MBA, sur comment rentrer chez JP Morgan. Et qui pourront à la limite peut-être te contacter s'ils sont intéressés, tu vois, c'est ça l'intérêt pour moi. Et je dis toujours, c'est mon MBA personnel en fait, et tu deviens mon mentor. C'est mon personnel MBA de rencontrer tous ces gens. Et donc voilà. Pour finir plus ou moins sur la fin, comment tu progresses, Claudel? Est-ce que tu as des routines, des trucs qui te permettent de progresser?
Alors oui, voilà, très bonne question. Alors je vais faire un peu ce qu'ils appellent aux États-Unis humble brag, tout c'est promouvoir un peu ce que je fais moi-même. Si vous allez sur ma page LinkedIn, il y a un article que j'ai fait récemment qui est ce que j'ai appris entre mes 20 et mes 30 ans.
Ok, génial.
Donc je me suis posé, j'ai fait un bilan un peu de la décennie dernière. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, et surtout, comment est-ce que je prépare la décennie d'après, entre 2020 et 2030? Donc, les routines, oui, beaucoup, beaucoup de feedback, beaucoup d'introspection. Alors, c'est pas forcément journalier, c'est pas forcément à la semaine, mais De manière assez fréquente, je me pose la question de savoir, alors, qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que j'apprends toujours au boulot, par exemple? Pour moi, c'est qui décide de rester dans un boulot vient de se barrer. Est-ce que j'apprends toujours? D'autres routines, de manière un peu plus fréquente, le sport, 3-4 fois par semaine. Je sais que tu as été lieutenant, donc je n'ai pas à apprendre les avantages du sport.
Oui, bien sûr.
Pour ce qui est de diminuer le stress, garder la discipline, ça permet de se détendre simplement. Donc le sport, une fois que j'ai commencé à le faire, c'est une routine que j'espère que je n'abandonnerai jamais. La deuxième routine, c'est la méditation. Que malheureusement, c'est récemment, je ne suis plus assez assidu que j'étais avant, mais en général, une demi-heure par jour, au réveil, quand je me réveille. On peut faire un épisode assez particulier, je pourrais te fournir des liens pour les show notes, mais la méditation, ça permet de se recentrer sur soi et d'être un petit peu moins réactif au monde intérieur. Donc bien ça, sûr. Je le fais de manière assez fréquente. Et le reste des routines, vraiment, c'est la discipline dans le sens où dans mon calendrier, une fois par mois, tu vois, j'ai un jour à la fin du mois, j'appelle mes neveux pour savoir comment est-ce qu'ils vont, de manière assez fréquente. T'as des potes que j'appelle de manière hebdomadaire, toutes les deux semaines, mais c'est dans mon calendrier. C'est-à-dire que je me réveille pas, je me dis, OK, qui est-ce que je dois appeler aujourd'hui? C'est marqué dans mon calendrier à une heure précise. Et ça m'aide un peu, enfin, je pense que le mot-clé revient toujours, focus et discipline. Dans chacune de mes routines, ça m'aide à rester sain.
Super, top. Et est-ce que tu as des livres à nous conseiller, ou podcasts même d'ailleurs?
Beaucoup plus de podcasts, malheureusement. Je suis pas aussi bon lecteur que j'aimerais. Le bouquin en ce moment que j'aimerais finir, c'est Africa Business Revolution, qui a été écrit par Achal Eke, qui est un Camerounais,
McKinsey.
Et deux, qui est The Head of McKinsey Africa. Yeah. C'est un très bon bouquin, il parle un peu de l'essor du business en Afrique. Donc, ça fait quasi 15-20 ans qu'il est en Afrique, McKinsey maintenant. Donc, ce qu'il a appris, il le met dans un bouquin. Donc, je le recommande chaudement pour tous ceux qui veulent savoir ce qui se passe en Afrique. En termes de podcast, qui est mon moyen préféré de consommer des médias en ce moment, tu as The Tim Ferriss Show, qui est pour moi le meilleur, parce que Tim Ferriss, c'est un mec qui interview des mecs et des nanas qui sont les meilleurs dans leur discipline, et il dissèque ce qu'ils font pour en tirer des routines. Donc,
Il doit parler pas mal de la semaine de 4 heures.
Ouais, exactement. J'en parle assez souvent. Le deuxième podcast, c'est How I Built This by Guy Raz. Alors lui, en plus, c'est assez court, c'est en général 30-35 minutes. Il interview des CEO, des CFO, des company founders à gauche, à droite. Et pareil, il parle un peu de leur enfance, des difficultés. Et il est très, très bon dans sa manière de poser les questions. Quelqu'un dont je m'inspire pour mon podcast, il pose toujours les bonnes questions. Une des questions qu'il pose que j'aime beaucoup, par exemple, c'est la réussite, à quel pourcentage vous estimez c'est du travail ou bien de la chance? Que je trouve que c'est assez profond parce qu'aux États-Unis, surtout, beaucoup sont très portés sur le self-made. Tu vois, je l'ai fait moi-même, mais je pense que être conscient du fait que quelle que soit la réussite, tu as toujours une part de chance qui s'y met. Pour moi, ça fait preuve de beaucoup d'humilité. Donc, The Tim Ferriss Show, How I Built This, et un que j'ai découvert récemment comme podcast, c'est African Tech Roundup, est une bonne manière de digérer un peu l'information sur l'écosystème technologique en Afrique.
Je ne suis pas allé regarder ça. Ça marche. Et dernière question, je t'embête plus après. Si tu avais là une heure pour ton dîner, tu pouvais dîner avec n'importe qui, hein, vivant, mort, dans le monde. Qu'est-ce que tu aurais envie de passer une heure à dîner et discuter tranquillement?
Thomas Sankara.
Oui.
Parce que ce qu'il a fait pour le Burkina Faso, c'est assez, ça reste assez mythique. Que ce soit amener le pays du point de vue politique, économique à l'époque, que ce soit sa vision sur la place de la femme dans la société. Et on parle d'un mec qui est né en 49, donc à l'époque, il fallait être un peu, je ne sais pas, avant-gardiste.
C'est clair.
Et que ce soit sur des points assez qui paraissent assez simples, mais pour moi, sont assez profonds à l'époque, par exemple, de renommer la Haute Volta au Burkina Faso. Rien que dans cette petite action, pour moi, ça se dit énormément sur qui il était en tant qu'homme. Et alors, le petit point qui m'amuse toujours, c'est qu'il a fait ses études militaires à l'EMIA, au Cameroun. J'ai l'impression qu'on a un point commun d'anglais. Donc, ouais, Thomas, on peut sans hésiter.
Super. Je te remercie beaucoup, Claudel. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on n'a pas évoqué?
Merci. Merci à toi, Malik, de me contacter. Comme je t'ai dit, à partir du moment où tu m'as fait signe sur LinkedIn, j'ai écouté quelques épisodes de ton podcast, j'aime beaucoup. Je pense que c'est... J'encourage des jeunes, des moins jeunes, mais tout le monde un peu à avoir ce type d'initiative. Hein. Comme tu as dit, nous sommes tous les deux à parler, mais si on peut toucher 1000 personnes en une heure de conversation, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, Atalakou à toi pour ce que tu fais.
Merci beaucoup.
Si j'ai un autre point à passer pour nos auditeurs, c'est encore une fois avec deux points qui, c'est un peu mon cheval de fer, le focus et la discipline. Ben, je pense que l'excellence, ce n'est jamais un fait particulier, ça vient via la répétition. Il faut se faire violence, que ce soit aller à la gym, perdre du poids, rejoindre une boîte particulière, avoir une promotion. Donc, c'est des moments que nous vivons avec le virus, avec les protestes sur l'état de la condition noire dans le monde. C'est assez difficile, mais si on veut se maintenir, si on veut rester excellent, être focus, être discipliné, je pense pour moi, en général, c'est la voie qui mène à tout.
Super.
Donc, merci à vous qui nous écoutez. Encore une fois, merci à toi, Malik, de m'avoir sur le podcast.
Merci, Claudel. Merci à tout le monde. Et je vous dis bye bye.